tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Céline Guillaume.
Bonjour les voisines et bonjour à vous les voisins. La révolution pour l'inclusion en milieu scolaire des enfants en situation de handicap est-elle enfin en marche ? En France, sur ce sujet, la cadence est accélérée ces dernières années, encouragée notamment par la loi du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Ce sont 380 000 enfants aux besoins spécifiques qui ont fait leur rentrée de septembre 2020 en milieu non spécialisé contre 134 000 en 2004. Un bond de 183%, mais se réjouir serait pourtant prématuré. Des associations tempèrent cette remarquable avancée. Ce serait le nombre des reconnaissances de certains handicaps jusque-là non perçus comme tels qui gonflerait en partie, mécaniquement, artificiellement, les chiffres. Autre bémol, on peine à obtenir des informations précises sur le nombre de ces enfants encore aujourd'hui non inclus dans les écoles. Enfin, malgré un certain volontarisme politique fort, le manque d'accompagnants des élèves, tout particulièrement, se retrouve en tête de liste de la colère des parents. Et la nouvelle gestion des auxiliaires scolaires à travers le PIAL, le pôle inclusif d'aménagement localisé, lancé en 2019, ne rencontre pas l'adhésion des accompagnants d'élèves. Pire, elle les a même poussés à battre le pavé. En résumé, du progrès, mais aussi de la grogne.
7 milliards de voisins.
On est tout proches.
On est ensemble.
Ça reste entre nous.
7 milliards de voisins. Et la planète se parle.
Vous l'avez compris, nous parlons aujourd'hui de l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap à travers cette question. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Pour y répondre, nous en soulèverons beaucoup d'autres. Que dit cette fameuse loi du 11 février 2005 ? Quelles sont les institutions, instances et organismes chargés de garantir cette inclusion ? Pourquoi les accompagnants scolaires crient-ils leur ras-le-bol jusque dans la rue ? Quelles sont les dernières actions et plans déployés en France et dans le monde pour une meilleure inclusion scolaire ? Nous ferons en particulier un gros plan sur le Cameroun. Nous accueillons deux invités pour nous accompagner et nous éclairer sur ce sujet. Ernestine Gomela, bienvenue à vous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé à l'IREDU, l'Institut de recherche sur l'éducation, Université de Bourgogne, spécialiste des questions d'éducation, du handicap et de la coopération internationale, auteur de « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap en France et au Cameroun » et de « Éducation inclusive en Afrique subsaharienne » aux éditions L'Harmattan. Pour les deux ouvrages, vous êtes également fondatrice de l'Association d'aide à l'éducation de l'enfant handicapé, AAEEH. On reparlera plus longuement de cette association. Nous sommes également en ligne avec Bénédicte Kayle. Bonjour Bénédicte Kayle.
Bonjour.
Vous êtes conseillère nationale éducation famille à l'APF France Handicap, la plus importante organisation française reconnue d'utilité publique, de défense et de représentation des personnes en situation de handicap, sans oublier leurs proches, bien évidemment, ça aussi c'est important. Merci à vous deux mesdames d'intervenir sur l'antenne de RFI.
Merci.
Caroline Boudet, qui est journaliste, maman de deux enfants, dont Louise, 6 ans, porteuse de trisomie 21, scolarisée en grande section de maternelle du côté de Nantes, sera notre témoin aux alentours de 11h30. Le programme est riche, le thème est majeur, on y va.
7 milliards de voisins, ça nous rapproche.
On est ensemble. C'est votre vie au quotidien.
Et la planète se barre.
Vous aussi, les voisines et les voisins, vous êtes bien évidemment invités à nous rejoindre. Vous êtes touchés de près ou d'un peu plus loin par cette question de l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. Vous vous intéressez tout simplement au sujet, vous avez des interrogations ou un témoignage à partager avec nous, que vous soyez enseignant, parent d'élèves, auxiliaire scolaire. Vous êtes invités à participer à cet échange. Je vous donne le numéro WhatsApp pour arriver jusqu'à nous, le 33 7 64 45 51 41. Une première question que je vous pose à vous, Ernestine Gomela, mais aussi à vous, Bénédicte Kayle. Quelle note, accompagnée de quels commentaires, pourriez-vous donner aujourd'hui, à l'instant présent, à la France, à l'éducation nationale, en matière d'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap ? Bénédicte Kayle, on va démarrer avec vous.
Oh là, elle est difficile. Elle est difficile, mais
je pense simplement qu'elle est intéressante.
Tout à fait. Je dirais 7 et peut mieux faire. C'est pour montrer les progrès quand même, pour montrer la bonne volonté, parce qu'il y a quand même, comme vous l'avez très bien résumé au départ, il y a quand même de gros progrès qui ont été faits, et en même temps, c'est vraiment on peut mieux faire.
Ernestine Gomela.
Oui, moi je dirais 7, comme Bénédicte, parce qu'il y a une volonté politique en matière d'inclusion d'élèves d'enfants en situation de handicap dans le système scolaire. Et il y a encore du chemin à faire et je pense qu'avec la communion de tous les acteurs et des actions collectives, et il peut y avoir un peu plus d'avancées, donc je peux mieux faire.
Donc on est tout de même sur le bon chemin.
On est sur le bon chemin, oui. Il y a une mobilisation autour, il y a une volonté politique aussi.
Alors le président lui-même s'y est engagé à travers cette déclaration. En septembre 2020, aucun enfant ne doit se retrouver sans solution de scolarisation. Dans les faits, ce n'est pas le cas. Pour la seconde année, on a les réseaux sociaux qui s'enflamment et qui se font l'écho sous le hashtag « J'ai pas école » de cette déception, du mécontentement, des aberrations et des injustices. Parfois, c'est vécu comme tel par les parents. Qu'est-ce qui coince fondamentalement? Pourquoi est-ce qu'il y a un tel écart entre cette volonté dont vous venez de parler, vous aussi, affichée des politiques et les moyens alloués en 2021, plus 250 millions tout de même pour la question, pour le sujet, et les résultats obtenus? Pourquoi il y a un tel écart, Bénédicte Kail?
Tout simplement parce que scolariser un enfant en situation de handicap, eh bien, ça demande un certain nombre de choses pour que ça fonctionne. Je veux dire, pour un enfant qui a des besoins éducatifs particuliers, ça va demander des aménagements, des adaptations pédagogiques. Ce n'est pas juste le mettre dans une classe ordinaire et hop, tout va bien fonctionner. Et c'est là où, effectivement, malgré la volonté politique, on se heurte parfois sur le terrain à des difficultés. Qui sont d'abord les difficultés des enseignants. Quand on a 30 élèves dans une classe, eh bien, ça peut être difficile de prendre le temps d'aménager, d'adapter sa pédagogie, surtout quand on n'a pas forcément été formé au départ. Donc voilà, on peut avoir effectivement, du coup, de la part des enseignants, des réflexes un peu de « je ne sais pas faire, je ne peux pas m'en occuper, il n'a pas forcément sa place dans le système ordinaire ».
Ernestine Gomela, cette année scolaire se déroule dans le contexte qu'on connaît, hein, qui est un contexte sanitaire sensible. La pandémie s'avère être un obstacle supplémentaire à l'inclusion scolaire. Est-ce que vous pouvez nous dire comment la Covid-19 est-elle venue entraver davantage et la scolarisation et la scolarité des élèves en situation de handicap?
Oui, effectivement, la pandémie de Covid-19 qui est tombée dessus a fait en sorte que les systèmes d'éducation et les politiques d'éducation se remettent en question parce qu'en un temps record, il a fallu réinventer l'école, entre guillemets. Et de tous les rapports qui sortent de l'évaluation de l'étape de la pandémie montrent que les enfants en situation de handicap ont été assez frappés, donc parmi les personnes exclues de l'éducation de manière normale, si je peux dire, entre guillemets, ouais. Figurent les enfants en situation de handicap. Et la pandémie de Covid-19 est venue aggraver cette situation. Et quelque part, on peut se dire que la pandémie Covid-19 a permis de mettre sur la place des débats la question de l'inclusion et de la scolarisation des enfants en situation de handicap. Et en même temps, il y a la profession enseignante qui est aussi à réinventer parce que déjà avant Covid-19, apparemment la formation des enseignants n'incluait pas la prise en compte des besoins spécifiques dont les nouveaux profils d'élèves, donc, parmi lesquels les élèves en situation de handicap. Donc maintenant, il faut tout remettre en question pour pouvoir permettre à tous les apprenants, du coup, de rentrer dans le système, de pouvoir bénéficier des apprentissages, de progresser dans les études, parce que le tout, ce n'est pas la quantité, mais il faut aussi la qualité. Donc, avoir une place dans une salle de classe et bénéficier de toute la prestation d'éducation, c'est une autre question. Donc, avec la Covid, il y a beaucoup de défis qui sont remontés.
Ernestine Gomela, vous dites que la Covid-19 a permis finalement de mettre en exergue un problème et des difficultés rencontrées dans cette inclusion scolaire. Et pourtant, des parents estiment que cette question est dans l'angle mort de cette crise sanitaire. Bénédicte Kail, qu'en pensez-vous ?
C'est compliqué parce qu'effectivement, dans un certain nombre d'endroits, les enfants en situation de handicap ont été un peu révélateurs des difficultés, notamment ceux, par exemple, qui pouvaient avoir des difficultés pour mettre en place les gestes barrières, par exemple.
en même temps, moi, je ne dirais pas qu'ils ont été l'angle mort, parce que je trouve que, justement, par rapport à d'autres moments, on a eu particulièrement, je trouve, une bonne écoute au niveau du gouvernement. En tous les cas, nous, en ce qui concerne toutes les situations problématiques qui sont arrivées jusqu'à nous, on a eu la possibilité de les régler très rapidement. Avec une vraie volonté, effectivement, au niveau du ministère de l'Éducation nationale et du secrétariat d'État, prendre contact à Tâche tout de suite en disant attention, ces enfants-là sont prioritaires.
Et avec une bonne réactivité en face de vous.
C'est ça. Très vite, ça a été affiché comme étant pour la reprise de l'école, les enfants en situation de handicap sont prioritaires. Donc, même si au départ, il y a eu des difficultés, après, elles se sont arrangées.
Et c'est important de souligner ce qui fonctionne. Bénédicte Kail, vous avez la parole. Gardez-la. On l'a dit, en matière d'inclusion scolaire des enfants et des jeunes en situation de handicap, la loi du 11 février 2005 a changé la donne. Elle a amené une nouvelle dynamique. Est-ce que vous pouvez nous dire que dit cette loi? Quelle est sa force? Qu'a-t-elle apporté de nouveau?
Elle a apporté de nouveau le fait que la scolarisation en milieu ordinaire, quelque part, devenait la norme. À partir du moment, ce que dit la loi de 2005, c'est que tout enfant en situation de handicap doit être inscrit dans son école de proximité. Au départ, c'est bien, on parle bien d'inscription, on ne parle pas forcément d'accueil. Hein. Il peut être inscrit dans l'école de proximité et finalement être scolarisé dans un établissement spécialisé. Mais il n'empêche que déjà, c'est effectivement le prendre en compte comme un élève. Et ça, petit à petit, effectivement, ça a changé les mentalités. Et ça a effectivement permis de diffuser cette culture de l'école, c'est l'école de tout le monde. Et c'est donc aussi l'école des enfants en situation de handicap.
C'est important de le dire encore une fois. Nersine Gomela, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap en France et au Cameroun ». Chez l'Armatan, vous en parlez dans ce livre. L'Afrique fait partie de ces régions du monde où l'inclusion scolaire passe aussi par une forme de lutte contre l'exclusion, je vous cite, des groupes sociaux les moins privilégiés dans tous les aspects du développement humain. Vous évoquez là des personnes vivant dans les bidonvilles, les enfants des rues, les mères adolescentes, elles aussi sont concernées, bien évidemment, les enfants handicapés et les populations nomades. Comment repère-t-on ces enfants, ces jeunes à qui le droit de l'éducation s'adresse aussi et qui ne sont pas forcément faciles à atteindre, à toucher et à connaître?
Oui, justement, la question du droit à l'éducation est parfois difficile à mettre en place dans certains contextes parce qu'il faut savoir que dans les pays africains, par exemple, la plupart du temps, les enfants en situation de handicap et d'autres groupes exclus sont souvent désignés sous le vocable d'enfants vulnérables. Donc, à partir de ce moment-là, il faut faire des identifications spécifiques en fonction des cibles et en fonction des programmes à mettre en œuvre, parce qu'il faut savoir aussi que les enfants marginalisés, généralement, sont surtout pris en compte par les organisations de la société civile, les ONG. Et il faut aussi comprendre que dans le contexte africain, les questions d'éducation passent par ce qu'on appelait les approches sectorielles. Et ce sont des approches au sein desquelles il y a effectivement la priorisation des besoins et des cibles. Et donc, sous le vocable « enfants vulnérables », en fonction des disponibilités financières ou des budgets alloués ou des priorités du moment, on peut mettre en avant les besoins des mères adolescentes et parfois passe à la trappe des enfants en situation de handicap. Or, il faut comprendre aussi qu'il existe une convention relative aux droits des personnes en situation de handicap et il est stipulé dans les documents de l'UNESCO qui revient à l'État de prendre en charge l'éducation de tous les enfants, quels que soient leurs besoins. Et le système doit essayer de tout mettre en œuvre pour accueillir tout ce monde et accueillir...
On va écouter Faouziatou à Abidjan qui nous a laissé une note vocale. On l'écoute.
En 2016, j'ai été membre du comité chargé de réfléchir sur les questions d'employabilité des personnes handicapées ayant contribué à l'élaboration de la loi portant protection et promotion des personnes handicapées au Bénin. Au niveau de la législation, on a souvent de bons textes, mais c'est dans la mise en application qu'il y a des difficultés. Je pense qu'il faut vulgariser ces textes, car en zone reculée, beaucoup d'enfants souffrent de l'ignorance par les parents des opportunités qui leur sont offertes. Dans certaines zones en Afrique, on considère les enfants handicapés comme tabous et on les cache. Certains parents arrivent à dépasser ces préjugés et inscrivent leurs enfants à l'école, mais malheureusement, ils sont souvent confrontés à des obstacles, notamment l'accessibilité. Il n'y a souvent pas de rampe pour les fauteuils roulants dans les écoles privées comme publiques. De même, pour les enfants souffrant d'albinisme, les malvoyants ou malentendants, les enseignants ne sont pas toujours formés aux mesures spéciales comme mettre ses enfants au premier rang, même si certains le font. Et pour les cas des enfants avec des besoins plus spécifiques, la rareté d'écoles spécialisées fait que les enfants handicapés qui s'en sortent sont des exceptions. C'est sans parler des moyens financiers qui font parfois ou souvent défaut à leurs parents.
Alors Faouziatou aborde plusieurs points. Je voudrais notamment rebondir sur la question de la formation des enseignants, puisque vous, Ernestine Gomela, vous avez justement orienté vos recherches vers le point de vue des enseignants chargés d'instruire ces enfants. Qu'en est-il ressorti ?
Alors, cette recherche sur l'analyse des politiques nationales, donc pour les enseignants, qu'est-ce que c'est que l'inclusion scolaire ? Comment est-ce qu'ils perçoivent cette modalité de scolarisation des enfants en situation de handicap ? Donc, je suis partie du constat que, le point de départ, c'était que pour la mise en place d'une politique éducative efficace, il faudrait prendre en compte le volet enseignant, donc tenir compte du point de vue des enseignants,
et
justement. Et les enseignants disent, par exemple, au Cameroun, qu'il y a peu de ressources allouées. Il y a, en France, par exemple, ils disent qu'il y a un problème de formation initiale. Et puis, il y a la sensibilisation sur le handicap des deux côtés. Et au Cameroun aussi, il y a le problème de ressources financières. Comme je disais tout à l'heure, parfois, les politiques éducatives sont rentrent dans le cadre d'un plan sectoriel de l'éducation. Donc, il faut procéder à des arbitrages, mais la volonté politique y est. Et donc, les enseignants font ressortir aussi des difficultés, par exemple, à adapter leur pédagogie, dont la différenciation pédagogique pour adapter les enseignements en fonction des élèves.
De chaque enfant, très individualisé.
Voilà. Et dans les contextes où les effectifs sont assez élevés, ce ne sont pas tous les enfants en situation de handicap qui peuvent retrouver leur place. Et il y a surtout à côté de l'école publique normale ordinaire, il y a le développement des écoles spécialisées pour malvoyants, malentendants. Et assez souvent, ce sont des anciens bénéficiaires et des instituts d'encadrement des enfants avec déficience auditive qui sont des promoteurs de ce type d'établissement et qui font la promotion. Et à côté de cela, ils sont soutenus par les parents d'enfants en situation de handicap qui se constituent soit en association, soit en groupe de revendication, comme par exemple ici en France. Et donc, c'est ces personnes-là qui font avancer.
C'est passionnant, on a besoin d'entendre ces informations-là, mais on va échanger avec une maman et une autre personne très investie et très engagée sur le sujet. Dans un instant, nous serons avec Caroline Boudet, la maman de Louise, une petite fille porteuse de trisomie 21, pour un témoignage sur cette question de l'inclusion scolaire.
But I ain't sorry, it's plain to see. I just let go, this time for sure. And in the blink of an eye, and yeah, I made my mistakes. Time to escape, at least I'ma give it a try. Oh,
to finding new way to breathe. I just let go, out on my own. Watch me enjoy the ride. And where the twists and the turns, I'm gonna learn. I'm the only one to decide.
Vous avez le titre, hein, elle le dit, Back on My Feet, c'était Kimber Rose. Bienvenue à vous, Caroline Boudet. Vous êtes journaliste, mère de deux enfants. Merci de partager avec nous votre histoire et surtout celle de Louise, votre fille. Elle a 6 ans, elle est porteuse de trisomie 21. Elle va à l'école, elle est en grande section de maternelle. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans 7 milliards de voisins. Et encore une fois... ce sujet, je sais qu'il est important pour vous et pour tous les auditeurs à l'écoute de RFI. Je voudrais commencer en lisant ces quelques lignes, en lisant vos lignes, si vous me le permettez, Caroline Boudet.
Allez-y.
Non, j'y vais. Non, le vrai handicap, celui qui peut te faire pleurer le soir, seul dans ton lit, avec presque autant de peine que lorsque tu as appris les diagnostics de ton enfant, l'ennemi qui t'envoie te mettre en boule dans un coin, à te répéter « je n'y arriverai pas, on n'est pas assez fort », c'est le système. Celui-là même qui, en théorie, est censé t'aider, mais en France, pèse souvent bien trop lourd sur tes épaules. C'est comme une vie parallèle dont tu apprends les bases, aux côtés de ton enfant, une vie en noir et blanc, faite de photocopies, de dossiers de plusieurs kilos, de certificats médicaux, de relances par courrier mail, par téléphone d'attente, d'absence de réponse, de demande de pièces supplémentaires. On lit ça, on est déjà épuisé. Ce passage est extrait de votre livre, L'effet Louise, paru chez Stock. On y entend la souffrance de cette machine administrative qui peut vous compresser jusqu'à vous broyer. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti en lisant ce passage. Où avez-vous trouvé de l'aide, de l'écoute et du soutien là, dans ces moments difficiles, peut-être même horribles ?
Dans les moments difficiles, honnêtement, l'aide, l'écoute et le soutien, elle vient alors déjà des proches et puis aussi des communautés de parents. Et ils sont nombreux qui traversent la même chose et qui connaissent toutes ces difficultés, quoi.
Louise a repris l'école donc en grande section de maternelle en septembre 2020, avec ce contexte que l'on connaît lié à la Covid-19. Comment s'est passée sa rentrée ?
Alors, sa rentrée s'est plutôt bien passée. Après, comme rien n'est jamais simple quand on est un élève en situation de handicap, il a fallu régler les problèmes d'absence, de manque d'AVS pendant 15 jours, je crois, à la rentrée. Mm-hmm. On va dire que c'était un moindre mal. Et puis là, elle est scolarisée à temps plein. Et puis, on a déjà fait les dossiers dont je parle pour préparer son année prochaine.
Alors, par quoi ont été rythmées ces 2 années et demie de scolarisation alors ?
Eh bien, malheureusement, ces années-là, elles sont rythmées, en tout cas pour les parents. Heureusement, ce n'est pas Louise qui subit ça pour le moment, par des réunions très en amont de chaque rentrée, des envois de dossiers, des demandes, en l'occurrence des demandes pour qu'elle ait une AESH, une aide humaine. Mm-hmm. En fait, j'ai envie de dire presque des plaidoiries, puisqu'à chaque fois, on doit se justifier, expliquer en quoi notre fille a besoin d'une aide pour que l'enseignement soit le plus efficace pour elle. Et à chaque fois, il y a eu des difficultés pour obtenir gain de cause, quoi.
Vos mots rejoignent ceux de tellement de parents qui disent se sentir comme l'avocat de leur enfant pour pouvoir obtenir une situation satisfaisante. Vous réfutez, vous, ce terme inclusion. Intégration vous paraît aujourd'hui plus juste pour décrire la réalité française sur la question. Pourquoi ?
Je me suis penchée beaucoup sur le terme inclusion et sachant que, comme vous le dites, nous, ce qu'on vit, il y a un écart énorme entre ce qu'on vit en tant que parent et le discours qui est affiché depuis quelques années, qui nous ferait croire que l'école française est déjà inclusive. Or, ce n'est pas le cas. Je pense qu'on en est au mieux à de l'intégration, puisque effectivement, le droit des enfants handicapés à être dans une classe est acté, mais les difficultés pour que l'école s'adapte à cet enfant, puisque c'est ça la définition de l'inclusion, les difficultés sont énormes et on sent des blocages, que ce soit du point de vue financier, administratif, mais aussi encore malheureusement dans les mentalités.
Reconnaissez-vous tout de même des avancées ? Constatez-vous tout de même des avancées ?
Alors, j'imagine qu'il y a des avancées. Moi, j'ai pas connu l'univers, on va dire, du handicap avant la naissance de ma fille. Elle n'a que 6 ans. Donc, je peux pas comparer, mais tout le monde me le dit. Et c'est vrai que la France et le système scolaire français vient de très, très loin. Donc, oui, il y en a forcément des avancées quand on arrive de très, très loin. Mais il y a encore, comme le disaient vos deux invités, il y a encore vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts à faire avant qu'on puisse vraiment parler d'école inclusive et puis que les parents aient moins à subir justement cette charge et toutes ces difficultés, quoi.
Vous l'avez dit, Louise bénéficie d'une aide humaine, d'une accompagnante, d'une AESH pendant 15 heures sur les 24 heures hebdomadaires, oui, d'école. Donc charge à la maîtresse seule de se débrouiller le reste du temps. Est-ce qu'elle y arrive ?
Bah écoutez, c'est très compliqué. Enfin, elle y arrive, notamment parce que Louise est en maternelle et qu'il y a aussi dans sa classe, elle a la chance d'avoir aussi en plus une ADSEM. Et puis aussi, elle y arrive parce que nous, parents, on s'est arrangé pour que certaines des prises en charge de Louise, psychomotricité, kiné, se fassent à l'école quand l'AVS n'est pas là, ce qui permet de s'occuper aussi de Louise. Mais en fait, depuis que Louise est entrée en école maternelle, on demande pour elle et aussi pour ses enseignantes qu'elle ait un temps plein d'aide humaine et ça nous a toujours été refusé.
C'était ma question suivante. Est-ce que vous savez pourquoi ? Pourquoi on refuse d'accorder à Louise davantage d'heures pour l'accompagner dans sa scolarité ?
Alors, il y a 9 heures comme ça qui sont... On n'a jamais compris vraiment pourquoi, puisque en fait, quand il y a des décisions de la part de la MDPH, comme ça, elles ne sont pas forcément motivées, ou alors on vous dit que Louise n'a pas besoin de plus parce qu'elle a déjà un peu d'autonomie, etc. Et puis surtout, on nous a fait comprendre en off, un peu, de façon officieuse, que si Louise avait besoin de plus d'heures d'aide humaine, eh ben, ça signifiait qu'elle n'avait peut-être pas sa place dans l'école et qu'il fallait penser à autre chose. Donc c'est un peu violent. À entendre ça.
C'est violent et c'est une façon de détourner complètement la question, en réalité.
Oui, exactement.
De quoi rêvez-vous pour l'école de demain, Caroline Boudet ?
Pour votre vie et pour tous les enfants. Évidemment, mais à mon avis, ça passerait déjà par... on a beaucoup parlé des effectifs de classe, et ça, je pense que pour tous les enfants, et donc y compris les enfants en situation de handicap, si on divisait les effectifs de classe par deux, ça serait vraiment plus simple pour tout le monde. Et je rêve d'une école où, dans les faits et pas que dans les textes, un enfant avec un handicap aurait sa place tout naturellement en classe, et où ça demande... Ce qui veut dire que ça ne demanderait pas aux parents de se battre, parce que c'est le terme qui revient tout le temps, on a vraiment l'impression encore de se battre. Ça va pas de soi, quoi.
Est-ce que vous êtes en colère contre ce système ?
Oui, je suis déçue et en colère, oui, un mélange des deux, mais je pense que la déception est encore plus forte parce que j'ai grandi et j'ai dans un grand respect pour l'école publique et je trouve que c'est une institution extrêmement importante, donc je suis surtout déçue de découvrir que quand on est du côté des enfants qui sont pas dans la norme, eh ben, cette école, elle ressemble beaucoup à une machine à exclure.
Dans votre livre, les mots sont durs, hein. Les mots sont très très durs. Dans votre livre, L'effet Louise, vous parlez de cette vie en noir et blanc, faite de paperasserie. Quels sont ces moments quand même en couleur, et j'espère qu'il y en a, vécus par Louise, grâce à l'école ou au sein de l'école ?
Alors, il y en a plein, parce que au quotidien, en tout cas, Louise déjà ne vit pas tout cet aspect-là qui est lourd peut-être pour nous. Elle adore aller à l'école. Je peux vous assurer, quand on l'emmène le matin, elle a la pêche, elle sourit, elle a hâte de rentrer en classe. Elle s'est fait des amis. Enfin voilà, samedi dernier, je l'ai accompagnée encore à un anniversaire. Elle a vraiment sa place en tant que Louise dans la classe, et les enfants, surtout à l'âge de 5-6 ans, maternelle ne font vraiment pas de différence. Elle est vraiment bien accueillie. Puis ça la motive. Enfin voilà, elle est heureuse. Donc ça nous apporte vraiment des beaux moments. Puis aussi des beaux moments de fierté quand elle apprend par imitation de ses camarades ou autres.
Et qu'elle progresse et qu'elle avance. Merci à vous Caroline Boudet et on souhaite à Louise des milliers, des pourquoi pas des milliards, soyons généreux, de journées multicolores ainsi qu'à vous. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bénédicte Kael, vous êtes toujours avec nous, bien évidemment. Je rappelle que vous êtes conseillère nationale éducation, famille, APF France Handicap. Est-ce que vous avez envie de réagir au témoignage que nous venons d'entendre sur l'antenne d'RFI ?
Pas forcément.
J'imagine que ça éveille beaucoup de réactions.
Oui, oui, tout à fait. Déjà, je suis complètement d'accord avec effectivement l'usage des termes. C'est vrai qu'on n'est pas du tout dans une école inclusive. Moi, je parle jamais d'inclusion. Je parle d'école inclusive parce que là, ça montre qu'on est dans un processus. Et ça, c'est vrai qu'on y est. Je veux dire, il y a quand même effectivement des améliorations. Maintenant, on n'est pas arrivé à une école inclusive. Vraiment, je veux dire. Et quand effectivement Caroline Boudet dit qu'on est encore dans l'intégration, je suis complètement d'accord. On demande encore à l'enfant de s'adapter. C'est toujours pas l'école qui s'adapte. Ça s'est amélioré un petit peu, mais on en est très très loin encore. Et c'est là-dessus qu'il faut vraiment falloir travailler, quoi. Et après, voilà, il y a plein de choses sur lesquelles je suis d'accord. Le parcours du combattant, la lourdeur des dossiers, le fait de devoir anticiper plus d'un an à l'avance, de toujours devoir justifier. Elle témoigne d'une réalité qui est le quotidien de milliers de parents.
On l'a dit, redit encore à l'instant, il y a une prise de conscience de cette question, de cette urgence humaine, de ce droit fondamental qui est mondial. Quels sont les pays ou le pays qu'on pourrait qualifier de bon élève et auquel on pourrait pourquoi pas piquer des choses, tant qu'à faire?
Alors, pendant tout un temps, l'exemple qu'on donnait, c'était l'Italie, qui avait effectivement, comme l'Italie a fermé tout ce qui était institut spécialisé, ça a été la psychiatrie d'abord, hein, dans les années 1970, etc., tout le monde était en milieu ordinaire, avec ce travail qui était fait, qui est intéressant, moi je trouve, de mettre en fait des enseignants ressources, et pas des accompagnants d'élèves en situation de handicap. C'est vraiment des enseignants qui viennent pour épauler leurs collègues. Et ça, c'est un système intéressant. Maintenant, la baisse des moyens fait qu'il y a de grosses disparités selon les régions italiennes. Le pays sur lequel on se tourne de plus en plus en termes d'exemple, c'est le Portugal.
Parce que qu'a-t-il proposé de novateur?
Parce que le Portugal a mis en place effectivement une loi aussi par rapport à l'accueil des enfants en milieu ordinaire et que, pareil, il y a tout un travail qui est fait d'accompagnement des enseignants, etc., pour que les enfants soient scolarisés en milieu ordinaire. Et après, il y a les pays nordiques. Mais après, c'est aussi des façons différentes de concevoir l'éducation de toute façon. Voilà, il n'y aura pas de classe de 30 élèves en Finlande, par exemple. Ça n'existe pas. Donc forcément, ça va aider.
Garba Runa va se joindre à nous dans cette discussion.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Garba Runa, vous êtes à Tawa au Niger, vous êtes non-voyant, vous êtes enseignant de braille et secrétaire général de la Fédération nigérienne des personnes handicapées de la région de Tawa, qui est une école publique, soulignons-le. Bonjour et merci d'intervenir sur notre antenne.
Bonjour à tous les voisins du monde.
Bienvenue à vous.
Comme elle m'a présenté, je suis enseignant non-voyant dans une école intégratrice, qui est devenue maintenant plus inclusive parce qu'il y a aussi d'autres élèves qui ont d'autres déficiences qui est la déficience visuelle.
Puis-je vous poser une question? Puis-je vous poser une question, Garba Runa? Êtes-vous sur haut-parleur? Si c'est le cas, puis-je vous demander de le couper? Vous voyez, je suis capricieuse, hein? Merci, c'est pour notre confort à tous. Merci.
C'est bon,
oui, ça paraît mieux.
Donc, comme je le disais, les élèves qui ont la déficience visuelle sont initiés à l'écriture braille. Donc, à partir de la quatrième année, ils sont avec leur père, enfin, ils n'ont pas d'handicap. et on les accompagne jusqu'à la fin du cycle primaire et même secondaire. Donc, on essaie aussi de faire expliquer et de comprendre à d'autres enseignants qui n'ont pas la formation, et c'est la volonté surtout.
Alors, ce qu'il y a...
Les partenaires comme le comité de gestion scolaire, le comité de gestion des établissements scolaires, CDG, eux aussi, on les forme à inclure dans le budget les besoins des enfants.
Ce qui est...
Il y a aussi des partenaires comme EPT, Éducation pour tous, comme Éducation Humanité et Inclusion, HPI. Il y a aussi Inclusion sans frontières qui apporte leur accompagnement, en plus de celui de l'État.
Oui,
donc le problème, c'est surtout au niveau du curieux, où les enseignants ne sont pas préparés à accueillir les enfants. Sinon, d'après les observations, pendant la cour de récréation, par exemple, ils sont vraiment inclus, ils oublient même qu'ils ont l'handicap. Les personnes qui sont plus épanouies dans la cour de l'école que dans leur milieu familial. Et du coup, même leurs parents ont besoin d'être formés pour mieux les gérer dans leur famille, sans discrimination, donc sans exclusion.
Merci à vous, Garba Aruna. On écoute cet échange, puisque la qualité de l'échange ne nous permet pas justement de comprendre et d'entendre tout ce que vous nous dites. Mais ce que je tiens à souligner concernant votre école, c'est qu'elle propose justement des classes d'intégration sur 3 ans pour apprendre à maîtriser l'écriture, la lecture en braille, avant ensuite d'intégrer une classe dite ordinaire. Il y a aussi dans votre école des élèves handicapés physiques en fauteuil. Il y a des rampes qui ont été installées pour eux. Il y a vraiment un énorme travail fait pour que l'inclusion soit réelle et non pas juste sur le papier. Merci à vous d'être intervenu en France.
Je peux rebondir.
Bien évidemment, Ernestine Gomelin, on vous écoute.
Oui, donc par rapport à ce que monsieur vient de dire,
De Garba Aruna.
C'est une forme d'inclusion qui existe justement en Afrique,
où
les centres spécialisés, les écoles spécialisées pour malvoyants, malentendants, sont transformées en quelque sorte en centres de ressources et elles accueillent des enfants valides ou avec d'autres types de handicap, mais ça ne constitue pas vraiment une avancée vers l'inclusion telle qu'elle est comprise. Parce que là, il a évoqué la question de financement et les financements par des partenaires, et le jour où les partenaires ne seront plus là, et qu'est-ce qui va se passer? Donc l'idée, c'est que l'éducation, le droit à l'éducation, il soit valable et applicable pour tous les enfants, et qu'on avance vers la conception universelle de l'éducation, c'est-à-dire que les systèmes d'éducation pensés de manière à recueillir tout type de public avec des besoins diversifiés.
Dans les besoins de ces enfants, on l'a dit, il y a l'aide humaine. Tous les enfants n'en ont pas besoin, mais beaucoup. Cette année, en France, 220 000 enfants sont accompagnés par une AESH. Cette année, c'est très particulier puisque ces accompagnants sont en colère, véritablement. Il y a eu un changement dans l'organisation, dans l'attribution de leur travail. Il y a eu une mutualisation aussi de leur travail. Comment vous voyez le travail de ces AESH, Ernestine Gomelin ?
Dans un article, dans une interview que j'avais accordée à 20 minutes il y a 1 ou 2 ans, justement, je parlais de la situation des AESH et des AVS. À l'époque, c'était une situation un peu complexe parce qu'ils n'avaient pas de statut particulier et leurs contrats étaient des contrats de courte durée. Donc, à tout moment, ils pouvaient s'en aller ou ils pouvaient ne pas être retenus. Et il y a l'autre volet aussi, c'est que les parents remontent parfois le problème de la mise en place de l'accompagnement justement par l'AVS. Une fois que le dossier est validé par la MDPH, il se coule un temps avant la mise en place effective de cet accompagnement. Et les enseignants, de leur côté, disent qu'ils éprouvent des difficultés à encadrer, à prendre en compte tous les enfants de la classe, à ne pas s'occuper spécifiquement de l'enfant handicapé quand l'AVS n'est pas là. Donc l'AVS, c'est une personne importante pour la scolarisation de l'enfant.
Je voudrais entendre Bénédicte Cail sur la question. Donc l'EPIAL, c'est cette nouvelle organisation qui a été pensée entre autres pour que les décisions d'affectation des accompagnants scolaires se fassent au plus près des besoins des élèves. L'EPIAL a été lancé en 2019, il se généralise sur cette rentrée, sur cette année scolaire 2020-2021. Il y a des responsables associatifs qui, eux, dénoncent une réorganisation qui favoriserait finalement un jeu de chaises musicales dans lequel un élève pourrait voir ses heures réduire avec un accompagnant au bénéfice d'un autre élève. Vous êtes aussi une responsable associative. Votre réaction ?
L'EPIAL, c'est effectivement... ça peut être une bonne idée au départ, ça pouvait être une bonne idée au départ. Si dès le début, nous, on essayait d'intervenir pour que ce soit effectivement pensé dès le départ aussi en lien avec le médico-social. Mais après, c'est comme un bon outil, ça dépend de l'usage qu'on en a. Donc on peut effectivement maltraiter l'outil, et je pense que c'est ce qui se passe dans un certain nombre de cas. Effectivement, où on est sur des piales qui sont que de la gestion humaine, et le problème des AESH, c'est qu'on gère dans un certain nombre de cas la pénurie. Donc gérer la pénurie, ça veut dire effectivement baisser le nombre d'heures, diviser entre des enfants, etc. Ne plus être dans la réponse aux besoins, mais dans l'être, dans le on fait avec ce qu'on a.
Il y a quelques jours, les AESH ont manifesté d'ailleurs à deux reprises, et on pouvait voir sur les pancartes « Stop à la précarité » dont a parlé justement Ernestine Gomela, « Stop à la précarité »,« Stop à la maltraitance » même sur ces pancartes, « Un vrai statut, un vrai salaire ». Est-ce que vous pensez que sur cette question, ça va enfin bouger, Bénédicte?
On a entendu parler de groupes de travail au niveau du ministère par rapport à ce sujet. Il y a des choses qui ont bougé quand même dans ces dernières années. Déjà le passage sur un contrat de droit public, le fait que ce soit du maintenant du personnel d'éducation nationale, mais la route est encore longue. Mais ce que je voudrais souligner quand même, c'est que on peut pas penser simplement les AESH, penser le reste de ce qui peut faire une école inclusive. Parce que effectivement, à l'heure actuelle, autant il y a des enfants sur lesquels le besoin d'AESH est réel, autant on se rend compte, et il y a des études qui l'ont montré, y compris des études d'éducation nationale, que dans un certain nombre de situations, l'AESH, il n'est pas là pour répondre aux besoins de l'enfant, il est là quelque part pour répondre aux besoins du système. Parce que l'enseignant ne sait pas, parce que l'enseignant ne peut pas. Donc, tant qu'on ne travaillera pas, cette question d'école inclusive, il faut vraiment qu'on la prenne par tous les bouts et qu'on avance sur tous les différents aspects de façon concomitante.
D'ailleurs, vous dites que l'une des raisons du dysfonctionnement de cette école inclusive en France, ce serait le manque de collaboration entre l'éducation nationale et les professionnels du médico-social.
Tout à fait.
Ça, c'est un enjeu important pour vous.
C'est un enjeu qui est primordial, mais c'est l'enjeu qui était souligné aussi par les autres intervenants, c'est-à-dire l'enjeu de la ressource. Bien évidemment que quand on est enseignant, on n'a pas la science infuse. Donc il faut qu'on puisse s'appuyer, qu'on puisse bénéficier de la connaissance d'autres. Et ça, effectivement, le médico-social est un acteur incontournable à ce niveau-là.
On se dirige vers les dernières minutes de l'émission. Je voudrais vraiment qu'on puisse donner à nos auditeurs des informations, des ressources, des portes auxquelles frapper. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre association en quelques mots et nous dire comment arriver jusqu'à vous ?
Alors, APF France Handicap, c'est effectivement une grosse association nationale. On a un site, on a un numéro de téléphone, enfin un contact mail, donc c'est pas compliqué de nous contacter. On a des délégations dans chaque département qui sont la porte d'entrée pour les familles qui se retrouvent en difficulté. Et après, soit la délégation est en capacité de répondre, soit effectivement ça remonte au niveau national quand c'est une difficulté plus importante à régler. Donc on est bien évidemment, on accompagne et on soutient les familles dans les difficultés qu'elles peuvent rencontrer.
Merci. Ernestine Gomela, vous avez vous aussi une association dont vous êtes responsable. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Oui, je suis fondatrice de l'association d'aide à l'éducation de l'enfant handicapé AAEEH. Nous sommes situés en France et nous intervenons aussi dans certains pays d'Afrique francophone. Nous avons un site internet, nous avons la reconnaissance des Nations Unies, nous avons le statut ECOSOC. Nous travaillons en collaboration avec les autres ONG membres de l'UNESCO et nous faisons davantage du plaidoyer pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et les programmes de développement. Nous apportons aussi un appui multiforme en matière de scolarisation des enfants en situation de handicap et nous sommes à l'écoute des parents et des familles qui nous instruisent beaucoup, beaucoup sur leurs ressentis et la manière dont ils mènent des combats pour faire avancer le droit à l'éducation de leurs enfants. Et très prochain, pendant la COVID, on a réalisé une enquête qui est sur notre site internet qui est assez édifiant.
On ne manquera pas d'aller y jeter un œil. Et merci à vous, Ernestine Gomela. Je rappelle que vous êtes chercheure associée à l'IRÉDU, Université de Bourgogne. Merci à vous, Bénédicte Kail. Je rappelle que vous êtes conseillère nationale éducation famille à l'APF France Handicap.
Je suis aussi chercheure associée à l'INSHEA, qui s'occupe de la recherche sur le handicap et les apprentissages.
Donc une femme engagée.
Voilà. Oui, tout à fait. Merci. São pequenos sonhos de quebrada, roda de rima, eu e as mina na calçada. Madrugada gelada, nós calada na calada, como o livro diz, dia algo vem do nada. Cortei o céu voando como fada, e quem me leva é essa língua afiada. Mente blindada, taça brindada, é Vans, Adidas, Nike, na dúvida pega um de cada. Dá fome pra geladeira lotada, e os mano ainda diz que as mina rima nada. Meu camarada, sua mente obsoleta, atrasada pela minha caneta, foi aposentada. Eu agradeço por tá aqui, valeu Giza, Dina G, Sherryline, Rubia, MC, Camila, CDD, Stephanie, Cris, MC, atitude feminina, salve negra ali. Tem dias que eu penso que eu tô sonhando, vendo tudo isso que eu ando vivendo. É tenso, mas o chum vai me guiando, vou compartilhando e aprendendo. Sério, às vezes eu penso que eu tô sonhando, que eu tô sonhando, que eu tô sonhando. Eu aprendi com as mais bravona, que nenhum otário vai me pôr na lona. Essa é a vitória das meninas mona, fiquei pensando nisso lá em Barcelona. C'était Drake Barbosa avec Sonando. Merci à Delphine de Dianus, Juliette Brault, Raphaël Lazizi et Nicolas Benita pour la préparation, la réalisation de cette émission. Notez, demain, nous parlons de l'entrepreneuriat social. Le numéro de téléphone WhatsApp 33 7 64 45 51 41. On compte sur vous, soyez au rendez-vous.
Couleur tropicale, Claudiciard.